De notre aventure, je ne sais pas ce qui est resté le plus clairement imprimé dans mon esprit. Les visages ou les paysages, les pierres que nous avons vues ou les atmosphères que nous avons flairées en chemin. Ce qui est sûr, c'est que ce voyage a été le plus terre à terre et en même temps le plus visionnaire de tous ceux que j'ai fait. Tandis que le poids de mon sac à dos manquerait fermement au sol, ma tête vagabondait parmi les nuages, à la manière d'un cerf-volant, et en même temps, la bonne chair méditerranéenne provoquait d'appétissants courts-circuits avec l'histoire. Paolo Rumuiz est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage intitulé Appia, récit, vagabondage, poétique mais aussi politique. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Paolo Conte.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso, eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno nei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab. Come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri dei miei pensieri all'incontrario va.
Pourquoi tout petit, Paolo, vous étiez turbulent et pourquoi vous essayiez sans arrêt d'échapper à votre père?
J'étais très inquiet, je rêvais de faire de grands voyages depuis mon adolescence, peut-être encore avant, quand ma grand-mère me racontait ses récits, ses légendes, ses histoires. Donc j'ai toujours vagabondé avec la tête... Donc c'était le destin de vagabonder aussi avec les jambes. Et moi, j'aimais grimper. Et pour j'échappais de ma maison pour aller en montagne, sans les dire à mon papa et à ma maman. Et un jour, ils m'ont découvert et ils m'avaient complètement banni la montagne. Donc un jour, j'ai décidé de... Mon père, en me voyant inquiet, en me voyant triste... si loin de la montagne, m'a dit « Bon, je te porterai faire une course dans le Mont Blanc et tu verras qu'elle est dure, la montagne. » Et moi, j'ai accepté. Et cette première course que je fais avec une légende de l'alpinisme français qui s'appelait Gaston Rebuffat, Ça a été tellement bien, la course s'est passée tellement bien que mon père a cédé les armes et m'a laissé grimper pour le reste de ma vie.
Eh bien, figurez-vous, cher Paolo Rumis, que nous avons retrouvé, grâce aux archives de l'INA, la voix de Gaston Rebuffat, qui a décidé de votre destin à la fois d'écrivain, de journaliste et de grand voyageur devant l'éternel. Il va parler de ses origines et de sa passion de la montagne. C'est une archive INA du 3 décembre 1981.
Très jeune, je pense que j'ai eu la lucidité de me rendre compte que la naissance m'avait donné des jambes, des muscles, un corps et une âme, et que tout cela était heureux si ça servait. Non pas si ça dormait, mais si ça servait. Finalement, d'ailleurs, c'est seulement les gens qui ne marchent pas qui croient que marcher est pénible. Ce sont ceux qui ne grimpent pas qui croient que pour grimper, il faut du courage, ce qui n'est pas vrai du tout. Au contraire, c'est un joli jeu qu'il faut faire avec lucidité, mais qui est propre à l'enthousiasme. Et je pense que si aujourd'hui encore, j'ai bien de l'enthousiasme pour essayer de faire encore différentes choses, même si je peux grimper moins efficacement qu'avant, mais de faire d'autres choses dans d'autres domaines, je pense que c'est bien à la nature que je le dois. Alors, dans les calanques, attention, ce n'est pas du tout de la montagne, ce n'est pas de l'alpinisme, c'est seulement de l'escalade. L'escalade est pouvant être une partie de l'alpinisme. Mais par contre, inversement, dans les calanques, donc on grimpe et on peut faire des choses, des escalades extrêmement difficiles. J'ai jamais rien regretté au fond, parce que je pense qu'au contraire, plutôt que des regrets, je pense que j'ai eu bien de la chance de saisir, au fond, toutes les éventualités qui s'offraient à moi. J'ai bien aimé grimper, c'est comme ça que je suis devenu guide. J'ai bien aimé faire des photographies alors que j'étais encore jeune, que j'avais une quinzaine d'années et que c'était pas si fréquent. J'ai bien aimé prendre des notes, me faire pour moi mes propres récits. Alors que, par exemple, pour la première fois, précisément quand j'avais 15 ans, j'ai fait à pied Briançon-Chamonix. Et c'est ainsi que j'ai découvert le Mont-Blanc. Et c'était un peu comme un pèlerinage. Chamonix, c'était la Mecque pour moi. Et chaque soir, nous étions un peu plus heureux, nous nous sentions un peu plus proches du but, qui était de voir le Mont Blanc.
Alors le but, nous venons d'entendre la voix de votre maître Gaston Rebuffat, Paolo Rumis. Que s'est-il passé lors de cette première expédition, dans votre corps et dans votre cœur ?
Moi, j'étais plein de révérence, de respect, pour cet homme que je connaissais, parce que je venais de lire son livre, son magnifique livre « Étoiles et tempêtes », que mon papa ne connaissait pas, donc moi j'étais très conscient de ce que j'allais faire. On est parti à 4h du matin pour faire la fissure Momeri, qui était une grimpée très sévère dans les aiguilles de Chamonix. Moi je ne savais pas si j'étais préparé, mais les choses se sont passées tellement bien. Et dans une telle beauté de l'esprit, avec un ciel magnifiquement bleu, que ça vraiment a été une des plus belles ascensions de ma vie. Et surtout, en bavardant avec lui, avec cet homme de mer, qui était un homme de mer comme moi, donc un Marseillais, un Triestin, qui se trouvait très bien ensemble, parce qu'il avait un esprit méditerranéen. Et donc... lui aussi a été très content de me connaître. Et après, il m'a fait une dédicace sur son livre quand il est retourné à Chamonix.
Y a-t-il un but dans ces expéditions ? Il vient de prononcer ce mot de but. Le voyage est-il un but ? Ou au contraire, par définition, c'est une perdition ?
Non, ni l'un ni l'autre. Je pense que le voyage, ce n'est pas le but qui est intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est les rencontres qu'on fait. C'est pas les lieux. L'important, c'est le gens qu'on rencontre qui te traverse la route quand tu marches. Que tu marches, que tu grimpes, que tu voyages dans un bateau voile, c'est la même chose. C'est les rencontres qui fait la différence. Parce que les lieux sont pareils pour tout le monde. Ce qui est différent, ce qui fait unique ton voyage, c'est les rencontres avec les hommes.
Mais pas seulement. Avec aussi les paysages, avec les atmosphères, avec le ciel. Et aussi le dialogue permanent avec son corps. Comment habiter son corps quand, par définition, il est en déplacement constant ? Votre dernier livre, Paolo Rumis, est consacré à la voie Appia. On y reviendra tout à l'heure. Mais la fin de votre livre, en épilogue, ce sont des remerciements assez longs. Ils ne concernent pas des personnes, comme vous venez de nous le dire. Ils concernent vos propres pieds. Vous remerciez vos pieds.
Oui, parce que je suis... convaincu qu'on écrit avec les pieds beaucoup mieux qu'avec les mains. Je pense que les pieds sont des instruments de connaissance du monde très intéressants. Si l'on marche bien, on regarde mieux les gens dans les yeux, donc la relation avec le monde est beaucoup plus facile. Et les voyages deviennent plus faciles si tu marches bien. Si tu donnes aux gens qui viennent vers toi, par exemple, dans un paysage désert, il y a un homme qui vient vers toi, qui est né dans ce paysage, et toi, tu es l'étranger. Il faut que tu donnes avec ton allure des signaux d'identité. Qu'est-ce que je veux faire? Qui suis-je? Et je dois donner ces réponses seulement avec mon allure. Et là, l'homme le comprend. Donc il y a un dialogue muet entre deux hommes qui se rapprochent. C'est magnifique, ça.
Mais ça passe aussi par le regard. On ne se touche pas forcément les pieds quand on se rencontre, y compris dans le désert.
Le regard arrive après. Mais quand on est à 200-300 mètres de distance, on se donne des signaux réciproques pour maîtriser la connaissance. Il faut dire qui tu es. Il faut dire que tu arrives en paix, que tu es pas un homme arrogant, mais tu es quelqu'un qui traverse le paysage un peu, qui a son temps. Un homme qui peut prendre le luxe d'aller lentement, de ne pas aller vite, parce que tout le monde se roule trop vite aujourd'hui.
Donc c'est la démarche générale.
Oui, je pense qu'un homme qui marche, après quelques jours, devient tellement noble dans son allure, il devient un peu comme Mosé qui portait le peuple d'Israël au retour à son pays. Quand tu pars, tu es encore pris de tes choses, les gens ne te considèrent pas. Mais après quelques jours, les gens te regardent avec envie, ils disent « Mais qui est cet homme ?» qui marche avec une telle joie dans le cœur. Il voudrait l'imiter. C'est ça, on donne énormément d'informations avec son allure.
Mais qui est ce Paolo Rumiz qui est en face de moi dans ce studio, qui est un senior? Vous êtes né en 1947 à Trieste, où vous vivez encore et d'où vous venez pour cette émission, et je vous en remercie. Vous avez l'air bronzé, vous êtes svelte, vous êtes manifestement extrêmement sportif. Est-ce que la tête doit aller avec le corps, ou c'est le corps qui influence la tête et le désir d'appétit du monde et de découverte de l'étranger? L'étranger pouvant être ce qui est au coin de la rue, pas forcément le désert d'ailleurs.
Mais en faisant la Via Appia, je me suis rendu compte que mes pieds m'a donné beaucoup d'informations sur la voie même, beaucoup plus que la carte géographique, que les yeux, parce que le pied était comme des metal detectors. Il comprenait la direction exacte de la route. Et souvent, les pieds devinaient la route, même quand elle était disparue. C'était comme une baleine qui plongeait dans la mer et après quelques kilomètres, retournait en surface. Et la Via Appia, c'est ça. C'est la chose belle de la Via Appia, c'est pas l'archéologie, mais c'est la direction, c'est la ligne, la pureté de la ligne.
Vos pieds perçoivent, vos pieds comprennent, avant même que les informations ne viennent à l'intérieur de votre tête, Paolo Rumiz. En tout cas, en tant que lecteur de la Via Appia, votre dernier livre, on s'aperçoit que c'est vos pieds qui vous guident et qui vous permettent de percevoir intuitivement où elle se trouve quand elle a disparu, cette Via Appia. Je rappelle que c'est la grande voie romaine, celle qu'on apprend à l'école dans tous les manuels d'histoire, mais il se trouve qu'elle a disparu dans les friches industrielles, elle a disparu dans les broussailles, elle a disparu à côté des autoroutes. Mais vous la retrouvez par vos pieds, comme s'il y avait une sorte d'ancestralité mémorielle de votre propre corps ou de votre propre appartenance italienne à cette voie Appia.
Je me demandais pourquoi de dizaines de milliers d'Italiens allaient marcher sur la voie du chemin de Saint-Jacques chaque année et l'ignorait complètement, la Via Appia, qui était la première voie moderne d'Europe. Pourquoi les Italiens avaient oublié une telle richesse nationale, je me suis dit. Et je commençais à faire un plein, et tout le monde me disait, « Mais qu'est-ce que tu vas faire? la voix a disparu. Va faire le chemin de Saint-Jacques, va faire des autres voies qui sont beaucoup mieux aménagées. Tu rencontreras les chiens du sud, tu rencontreras la mafia, tu rencontreras le béton. Et on voulait me décourager. Moi, j'avais déjà changé d'idée. Mais à un certain moment, je pensais, mais voilà. Mais la vraie raison pour laquelle je veux partir, c'est que la voix est méconnue. La voix est ignorée. Et tout le monde veut me décourager. C'est une bonne raison pour la faire. Ça veut dire que j'ai quelques possibilités d'être le seul, le premier, qui va la découvrir après des siècles d'ignorance et d'oubli.
Vous avez dit tout à l'heure que vous viviez à Trieste, vous êtes un homme de la mer, vous avez fait de nombreux voyages à travers le monde, vous avez parcouru l'Europe à pied, en voiture, car vous ne dédaignez pas les voitures, notamment les toutes petites voitures à qui vous rendez hommage quand elles ne vous ont pas lâché au cours de vos pérégrinations. Vous avez voyagé aussi partout sur les frontières, on va redéfinir la cartographie sensible de l'Europe que vous tracez à l'intérieur de l'œuvre littéraire que vous avez aujourd'hui, Paolo Rumiz. Mais vous avez aussi fait des voyages immobiles. Et là, je veux parler d'un voyage que vous avez fait au sommet d'un phare sans jamais bouger. Donc, immobilité et voyage, ça va quand même ensemble.
Ah bon, ce voyage a été une décision que j'ai prise en 2014, après avoir vécu 4 mois de déplacements dans toute l'Europe pour décrire le front de la Première Guerre mondiale. Donc j'ai voyagé de l'Angleterre à la Turquie, de l'Italie à la France, à la Belgique, à la Pologne et à l'Ukraine. Et j'étais tellement fatigué à la fin de ces voyages que j'ai dit à mon journal, « Bon, La République, c'est bon, le journal pour lequel je faisais ces entretiens chaque été. » Je dis, « Bon, je fais un voyage, mais ce sera cette fois un voyage immobile. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de regarder. » Mais le journal me disait, « Qu'est-ce que tu vas écrire dans un lieu où rien ne se passe ? Un phare ? Une île où personne n'habite, sauf les gardiens du phare. » Et moi aussi, j'étais un peu préoccupé de ça. Et je me suis porté avec une vingtaine de livres, avec 60 kilos de nourriture et 20 litres de vin.
Ah, quand même, pas d'eau.
À moi, 20 litres, c'est le minimum. Et je devais aussi faire des cadeaux aux gardiens du phare. Mais je te jure, j'ai jamais lu une seule ligne de ce livre. Parce que la chose qui s'est passée dans ces lieux, dans cet endroit où rien ne devait se passer, étaient tellement nombreuses, tellement intéressantes. Les météos, le climat, la mer, ce qui s'est passé dans mon âme, dans la nuit, à 3 heures du matin, monter au sommet du phare et attendre la lumière, les tempêtes, les étoiles qui retournaient après des jours et des jours de tempêtes. C'est quelque chose. Tout le temps, j'écrivais, je prenais des notes, je prenais des images avec mon caméra.
Alors, il y a une dimension que vous n'avez pas encore évoquée, Paolo Rumiz, c'est la dimension du grand reportage. Vous venez de dire que depuis des décennies, vous travaillez pour la Repubblica. Vous avez été grand reporter, vous êtes un spécialiste mondialement reconnu de l'Europe des Balkans et du Danube. Et il y a aussi, à l'intérieur de chacun de vos livres, une perception, une mise en perspective, une réflexion extrêmement subtile sur le destin de l'Europe, sur le futur de l'Europe et sur le passé de l'Europe. Je voudrais que vous écoutiez la voix d'un de vos amis, j'imagine que c'est un de vos amis, Claudio Magris, qui va parler du rideau de fer et comment cela a marqué sa littérature. Comment ne pas penser à Claudio Magris quand on vous lit Paolo Rumiz, puisque vous avez fait un livre magnifique consacré à un fleuve, qui est le Pô, que vous avez remonté, alors que Claudio Magris a fait un livre qui reste aussi dans nos mémoires et qui a été entièrement consacré à Danube. Je vous propose d'écouter la voix de Claudio Magris à propos donc de ce rideau de fer, archive INA, 16 septembre 2013. J'ajoute aussi que vous êtes de Trieste, tous les deux, décidément.
On n'habite pas loin l'un de l'autre.
On écoute Claudio Magris.
Ce n'était pas une frontière quelconque, c'était le rideau de fer. Et quand j'allais flâner, me promener avec mes camarades d'école, je voyais cette frontière. Et au-delà de cette frontière, il y avait, et ça m'a vraiment marqué, c'est la première chose, il y avait d'un côté un territoire qui était l'inconnu, le menaçant, quelque chose d'obscur, parce qu'il a commencé l'empire de Staline jusqu'à la rupture entre Tito et Staline. Alors cette frontière était infranchissable, le symbole de tout ce qui est obscur, inconnu. Mais de l'autre côté, il s'agissait d'un monde que je connaissais très bien, parce que c'était des territoires qui avaient fait partie de l'Italie jusqu'à la fin de la guerre, quand la Yougoslavie les avait occupés et annectés. Quand j'étais enfant, mais pas seulement enfant, aussi un petit garçon, j'étais allé plusieurs fois. Et alors, je crois, cette coïncidence de quelque chose qui est en même temps connu, familier, qui fait partie de son propre monde, et de inconnu, menaçant, ça m'a vraiment marqué. Et je crois que la littérature a beaucoup à faire avec ces choses-là, parce que la littérature est très souvent un voyage du connu à l'inconnu que nous pouvons rencontrer soudainement. Ce n'est pas nécessaire de traverser une frontière pour se trouver dans un monde étranger, inconnu, même dans sa propre vie. Et de l'autre côté, la littérature est aussi un voyage de l'inconnu au connu, parce que quelque chose qu'on croit comme une civilisation, une culture, une réalité d'un autre peuple qui nous semble loin, très difficile à contacter, se révèle absolument proche, absolument familier. Et j'avais comme le sentiment, plus tard bien sûr, pas à cette époque-là, que pour grandir vraiment, j'aurais dû être capable de dépasser cette frontière, et pas seulement avec un visa, mais aussi spirituellement, pour faire de nouveau mien ce monde qui était déjà mien.
Alors, beaucoup de choses dans cette archive, Paolo Rumiz, à propos de ce que vient de dire Claudio Magris. D'abord, vous êtes triestins tous les deux. Combien de nationalités a eu votre grand-mère? Parce que quand on habite Trieste, on a un passé européen plus que confus, non?
Oui, elle a vécu sous cinq différents drapeaux, l'Autriche-Hongrie, l'Italie, le Royaume d'Italie qui est devenu l'Italie fasciste, après l'occupation allemande, après l'occupation de Tito, donc yougoslave, on a été la 8e République yougoslave, et après la République italienne. Ah non, aussi l'occupation américaine. Moi, je me rappelle beaucoup de cette occupation américaine. Mais je dois dire que, pour moi, comme pour Claudio Magris, la frontière était quelque chose qui était très intime dans moi. Moi, je suis né la même nuit que la frontière a été établie autour de ma ville. Donc, le 20 décembre 1947, quand ma mère perdait les os à cause de ma naissance, j'étais près de naître. Et dans la même nuit, les soldats anglo-américains et yougoslaves plantaient le premier piton autour de ma ville. Moi, je suis un fils de la frontière. Et puisqu'on avait décidé, après 60 ans, de la démanteler, parce que la Slovénie, après la chute de la Yougoslavie, entrait dans le pacte Schengen, on a décidé de le faire le même jour, donc le 20 décembre 2007, qui était aussi mon anniversaire. Alors, le démantèlement du ex-rideau de fer et la fête de mon anniversaire ont coïncidé. Et moi, j'ai fait une magnifique fête dans un bois avec un passage piétonnier dans la vieille Yougoslavie. Et dans cette nuit, on a coupé un morceau, la vieille barre de fer qui séparait l'Italie de la Yougoslavie. Et dans cette nuit, j'ai trouvé quelque chose de complètement inattendu. Parce que j'avais lutté toute ma vie pour effacer cette frontière, pour reconstituer le voisinage mitteleuropéen de la ville. Et après la chute de la frontière, je me suis dit, mais voilà maintenant, qu'est-ce que je fais sans ma frontière, qui a été mon principale invitation au voyage.
Donc voilà. Il faut des frontières.
Moi, je pense que la frontière, c'est une c'est une frontière qui est pas dure, une frontière perméable. Elle est très importante pour signer des différences. Quand j'ai vu tomber cette frontière, je me suis dit, voilà, maintenant les Slovènes commenceront à être comme les Italiens et les Italiens comme les Slovènes. Et alors le désir de voyager peut-être va s'effacer Parce que moi, je vais aller vers l'inconnu, pas vers les connus. Donc j'avais peur que la chute de la frontière pouvait aussi effacer le sentiment de l'inconnu.
Et quand vous avez compris en tant que grand reporter Paolo Rumis pour la Repubblica que l'ex-Yougoslavie tenue par le maréchal Tito était une construction ethnique et politique artificielle qui a permis, hélas, la résurgence de la guerre ethnocidaire et des violences et des tragédies engendrées par cette guerre des ethnies, qu'avez-vous ressenti au plus profond de vous-même, vous qui étiez aux avant-gardes de cette tragédie?
Ah oui, en vivant sur la frontière, j'ai compris des choses que les autres Italiens ont compris beaucoup plus tard. Mais la chose plus importante, c'était que la guerre yougoslave, c'était pas une guerre balkanique. C'était pas une manifestation de barbarie balkanique, mais c'était une manifestation de quelque chose qui entrait en crise en Europe. Donc c'était une maladie européenne. Donc dans l'estomac de l'Europe, les Balkans, il s'est passé quelque chose qui nous donnait un état d'alerte que nous n'avons pas compris. Et maintenant, les choses qui sont commencées ces temps-là, bon, il y a une balkanisation de l'Europe qui me préoccupe beaucoup, beaucoup.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Paolo Rumis, Ray Charles.
Now my room has got two windows, but the sunshine never comes through. You know it's always dark and dreary since I broke off, baby, with you. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue, and it's all because of you. I live on
Lonely Avenue.
Oh,
Lonely,
yes, sir.
Avenue.
Now you know my covers, they feel like lead. And my pillow, it feels like stone. Well, I toss and turn so every night. I'm not used to being alone. I live on a Lonely Avenue. My little girl wouldn't say I do. Since you left this town, you know if I could beg or borrow the money, child, I would be a highway bound. I live on a lonely avenue. My little girl wouldn't say I do, but I feel so sad and blue.
Je suis écrasé de honte à l'idée de ne pas savoir comment réagir face à Daesh qui égorge et détruit en se moquant des enseignements de Mahomet. En Yougoslavie déjà, je m'étais rendu malade d'impuissance en songeant à l'inutilité de ma plume face à l'éloquence des Kalachnikovs. Je voulais combattre pour défendre les gens désarmés, mais je ne pouvais pas, ce n'était pas mon métier. Les assassins le savaient très bien, et d'ailleurs, ils se servaient de mon travail pour amplifier la diffusion de la panique et accélérer le nettoyage ethnique. L'arrivée des exilés, ajoutez-vous, Paolo Rumis, dans une revue qui s'intitule La NRF et qui a été publiée en janvier 2016, l'arrivée des exilés est un formidable capteur de cette impuissance de l'Europe. Elle nous oblige à admettre que nous sommes installés sur notre euro-enthousiasme d'une manière qui nous a fait baisser notre garde. Nous en avons oublié que 70 ans de paix constitue une exception absolue dans l'histoire de notre continent et que la génération de l'après-guerre a tout simplement été la plus chanceuse du dernier millénaire. Fermez les guillemets, mais vous n'en appelez pas pour autant à une nouvelle guerre.
Non, moi j'ai dit que la mémoire de la guerre est très importante pour éviter d'autres guerres, c'est tout ça. Et donc je pense qu'aujourd'hui, que tous les témoins directs de la première naturellement et aussi beaucoup des témoins de la deuxième sont morts, il est très important de trouver une narration, une efficacité narrative pour raconter cette histoire. Moi, je crois beaucoup à un instrument très ancien qui s'appelle l'évocation. Il faut évoquer, c'est-à-dire, il faut appeler les morts. Et quand je fais ça, surtout dans les écoles, quand je rencontre le jeune, il reste fasciné de cette technique. Un jour, j'ai porté des jeunes dans les tranchées, dans les Dolomites, dans les galeries sombres des montagnes, et j'ai fermé la lumière et j'ai lu à la lumière d'une chandelle, d'une bougie, la lettre des soldats. Et le temps n'existait plus, et tous les gens, les garçons et les filles qui étaient là, qui riaient un peu, sont devenus muets et sont entrés dans l'histoire directement, et n'ont jamais oublié ça. Donc il faut vraiment trouver, l'Europe, pour survivre, a besoin des bons écrivains capables d'évoquer la peur.
C'est ce que vous faites dans vos livres, hein, et ce depuis des décennies, Paolo Rumiz. Où que vous alliez, vous réussissez par la grâce de votre écriture et par vos connaissances historiques, mais aussi par votre sensibilité et votre subjectivité que vous assumez, à nous donner des leçons d'histoire, sans administrer de manière comme ça un peu barbante l'histoire avec un grand H, mais vous nous faites aussi réfléchir sur le présent et sur le futur. Par exemple, dans ce nouvel ouvrage consacré à la voix Appia, qui s'intitule tout simplement Appia, eh bien, à un moment, dans le dernier tiers du livre, il y a des moments où vous êtes en rage, parce que, eh bien, il y a une réunion avec un monsieur qui s'estimait être le numéro 2 de votre gouvernement en Italie, qui pour le moment a été obligé de partir de son gouvernement après sa tentative de coup d'État. Vous êtes aussi un homme engagé politiquement. Vous dites ce que vous pensez.
Écrire, c'est un acte politique quand on se sent engagé. Moi, je me sens beaucoup en bataille dans ces moments, surtout pour l'Europe. Je viens de faire, par exemple, un grand voyage qui vient d'être publié en Italie et qui a vraiment eu une diffusion énorme, 60 000 copies. Une histoire un voyage dans les monastères bénédictins. Et moi, je me suis demandé, mais comment ces hommes qui ont agi dans une Europe presque anéantie par la fin de l'Empire romain ont pu établir un réseau de monastères tellement fort? Et quel type d'homme était-il? Alors je me suis dit, voilà, peut-être, pour reconstruire l'Europe, il ne faut pas attendre que les moments soient favorables. Le patriotisme européen doit se montrer dans les moments de désespoir, dans les moments où tout semble perdu. Pensez que Victor Hugo, par exemple, avait fait un discours à l'Assemblée nationale, c'était 1850 quelque chose, pour parler de la nécessité de l'Europe. Et le Parlement riait de lui, comme s'il était un vieux fou. Et c'était Victor Hugo. Donc imaginez maintenant, il faut vraiment s'engager. C'est le moment de s'engager. Les meilleures choses écrites sur l'Europe ont été écrites entre les deux guerres mondiales, dans les moments où le nazisme vraiment semblait impossible à être battu.
En même temps, ce que vous traversez en ce moment même dans votre pays, l'Italie, Paolo Rumiz, nous donne à nous, Européens, une leçon de pratique démocratique. On a l'impression que ce qui se passe en Italie, c'est le désir du maintien de la démocratie qui pourra peut-être s'alimenter grâce aux efforts de l'Europe pour maintenir cette démocratie.
Oui, je me suis demandé comment l'Italie avait pu oublier une route qui n'était pas seulement la numéro 1 de voies modernes en Europe, mais était aussi le centre de la Méditerranée, et c'était la route à travers laquelle les légions, les commerçants, ces gens-là, dialoguaient avec ces mondes du sud-est, ça veut dire la Libye, l'Irak, etc., les Moyen-Orient, les Levant, qui aujourd'hui nous échappent. Alors, comment cette perception de la centralité de la presqu'île italienne s'est complètement évanouie? Vraiment, je pense que l'Italie a complètement oublié d'être un pays de mer et de se rendre compte que Dieu l'a mis au milieu de la Méditerranée pour être un port. Donc fermer les ports, comme provocatoirement dit un ex-ministre italien, c'est une folie totale.
La Camorra, elle est bien là, mm-hmm. y compris dans la voie Appia, vous allez la rencontrer?
Bon, directement non, mais...
Ah bah on va vous en parler. Il y a des paysans, puisque vous adorez les gens que vous rencontrez, oui. vous arrivez à nouer des contacts très facilement.
C'est.
Il y a même des paysans dans la voie Appia que vous allez rencontrer dans une bourgade perdue et qui vont vous dire « Ah mais quand même, c'était mieux avant quand la mafia était plus présente. Maintenant, elle nous laisse un peu tomber. Mais il y avait plus la paix et on avait un peu plus d'argent. »
Mais oui, alors disons que la Via Appia qui portait les noms des Roms vers le sud, aujourd'hui c'est la route à travers laquelle la Camorra ou la mafia s'empare des Roms, il faut le dire, parce que Rome est vraiment en crise à cause de ça. Mais je dois dire aussi que dans le même territoire plus malfamé, le territoire que Roberto Saviano a appelé Gomorra, Dans ces endroits, dans ces paysages, j'ai rencontré des paysans magnifiques, formidables, accueillants. Veux-tu que je les imite? Ils me disaient « Aceta devenu poco, tenim acqua frisca o puzza ». C'est un dialecte local, ça veut dire « Asseyez-vous un petit peu, vous êtes fatigué, nous avons de l'eau fraîche dans les puits ». Et ils me donnaient des fruits en disant « Nous laissons toujours des fruits dans les arbres pour les petits oiseaux et pour ceux qui passent, comme vous. C'est la loi de Dieu. » Donc, c'est très difficile d'entendre une chose pareille dans le nord d'Italie. Mais dans le sud, il y a quelque chose qui balance l'inefficacité de l'État et qui est la force des rapports personnels. Les gens étaient heureux de nous voir.
N'êtes-vous pas un peu égoïste, Paolo Rumis? Je veux dire par là que vous avertissez vos lectrices et vos lecteurs en leur disant que vous n'allez pas tout donner. Vous n'allez pas donner toutes vos adresses, même si à la fin de votre livre, il y a tous les itinéraires, le temps qu'il faut, il y a même les adresses des endroits où on peut dormir, etc. Mais les gens les plus merveilleux que vous allez rencontrer au gré de vos voyages, y compris sur la voie Appia, eh bien ceux-là, vous n'allez pas dévoiler leur identité.
J'ai aussi évité d'identifier des endroits pour les protéger par des barbares. Par exemple, le voyage immobile que je fais dans les phares, dans ces voyages, j'ai jamais dit les noms de l'île dans laquelle j'avais habité, pour éviter qu'elle puisse être envahie par les idiots, par les arrogants, par les riches, etc.
Êtes-vous apte à découvrir plus la beauté du monde, où qu'elle se trouve, y compris dans un paysage aride ou au milieu de l'asphalte d'une autoroute, que n'importe qui d'autre? Parce que cette beauté du monde, vous la déployez à l'intérieur de votre écriture, mais pas seulement devant la mer, devant la beauté du paysage, mais aussi dans des endroits où il faut apprendre à trouver ou à détecter la beauté. Comment vous la définiriez, cette beauté du monde?
Parlant de l'Italie, je dois dire que tous mes voyages en Italie sont... je me balance entre l'indignation pour ce que les Italiens font à leur paysage et de l'autre côté, par la merveille de la beauté du paysage qui résiste encore à la dilapidation. Donc, mais les mondes, quant au monde, je dois dire que les choses plus belles, on les voit dans les endroits plus malfamés. Peut-être à Sarajevo, à la guerre des Balkans, que j'ai raconté comme reporter de guerre, j'ai trouvé des gens d'une beauté spirituelle impossible à trouver en Italie, dans l'ouest de l'Europe. J'ai trouvé des âmes, un altruisme énorme. Donc c'est comme si le noir, la nuit, m'aidait à voir la lumière du bien. C'est impossible à séparer le bien et le mal.
Quid du devenir de votre propre pays ? Voici comment vous terminez votre nouveau livre, Appia. Je vous cite « Après le Sud, voici que l'Europe perd aussi l'Orient. L'Italie, désormais, ce n'est plus que la mer tyrrhénienne. Et Rome n'est rien d'autre que deux syllabes vides de sens. »
Ah oui, la fin est un peu pessimiste, parce que j'ai peur de devoir dire, j'avais peur de devoir dire que ce livre, ces voyages avaient été inutiles. Mais il a été très utile, parce que après ces voyages, on nous appelait au ministère, à Rome, et on lui a dit, écoutez, on a trouvé ça, on vous donne l'itinéraire, parfaitement décrit, et on vous peut aider à aménager l'itinéraire. Et on a fait ça. Le ministère a approuvé une dépense de 20 millions d'euros pour repartir. Mais l'important, c'est que le gens du pays puissent sentir la Via Appia comme un patrimoine qui leur appartient. Et pour eux, a été une émotion très forte de voir des gens du Nord, comme nous, on était, nous quatre. Moi, Irène, Alexandre et Ricardo. Nous quatre, nous venions tous du Nord. Et pour eux voir arriver à pied, dans des journées de chaleur impressionnantes, des gens à pied qui passaient péniblement à travers un paysage souvent difficile, des gens du Nord, pour eux, c'était une émotion très forte. Ils se demandaient alors, ils aiment notre terre. Pourquoi nous ne l'aimons de la même manière? Et alors, le passage de ces étrangers, disons, de ces étrangers dans un paysage du Sud, a été très important pour eux. Et dans un voyage que je fais après la fin du voyage à pied, un voyage que je fais en voiture, j'ai rencontré plus de 5000 personnes qui s'étaient réveillées après avoir lu le récit de ce voyage dans la République.
Et le prochain voyage?
Avec mon petit-fils, avec une tente sur une rivière, pour pêcher, pour dormir, pour lui raconter l'histoire, pour cuisiner avec le feu. Une chose très simple. Mais la plus belle aventure, c'est l'aventure qu'on vit avec un enfant.
J'envie votre petit-fils. Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Derrida, puisqu'on a beaucoup parlé de l'Europe. Il va évoquer l'héritage européen, langue et culture commune. C'est une archive INA du 17 décembre 2001. Cela va nous permettre de remettre aussi en perspective votre rôle poétique et politique de visionnaire de l'Europe, vous qui êtes l'auteur d'un livre important intitulé « Aux frontières », au pluriel, de l'Europe.
Ce qu'on nomme l'Europe, ou la philosophie européenne, c'est non seulement un corps de culture, de langue, de tradition qui se rassemble, mais c'est aussi un tourment et un travail porté à, justement, excéder le lieu européen, à excéder ses propres frontières. Se porter au-delà de son lieu de naissance, je crois que c'est ça qui caractérise, justement, le meilleur de la philosophie européenne, de l'esprit européen. Donc, comment faire pour être un héritier de l'Europe, de ce point de vue-là, sans eurocentrisme? C'est ça la difficulté de cette réponse, cette responsabilité.
Alors, on vient d'entendre la voix de Jacques Derrida, vous, Paolo Rumis, qui avez beaucoup arpenté avec vos pieds, avec votre cœur, avec vos engagements pro-européens, cette Europe en tous sens, vous qui l'avez éprouvée physiquement, mais aussi intellectuellement, vous qui l'avez cartographiée dans ses moments les plus tragiques, et notamment dans la guerre et les tragédies de l'ex-Yougoslavie. On dit souvent qu'il y a la vieille Europe, il y a la nouvelle Europe, il y a l'Europe actuelle. Quel terme employez-vous pour désigner cette Europe aujourd'hui, à l'automne 2019?
L'Europe de jeunes.
Des jeunes.
Jeunes, oui. Depuis 5 ans, je suis engagé avec une orchestre européenne de jeunes filles et enfants entre 12 et 20 ans qu'on va sélectionner chaque année avec des voyages dans toute l'Europe, et on forme chaque année une orchestre nouvelle à laquelle je donne ma voix comme conteur d'histoire. Et vivre un mois avec ce jeune, voir avec quelle vitesse ils se connaissent, ils s'aiment souvent, et ils deviennent une unité symphonique, c'est quelque chose qui te donne, sans beaucoup de mots, l'exemple de ce que l'Europe pourrait être. Ils viennent des pays souvent ennemis l'un de l'autre, mais dans quelques heures, ils deviennent orchestre. C'est un mystère merveilleux. Et les gens qui voient et qui écoutent nos performances sont ravis. Et à la fin, quand on joue l'hymne européen, l'hymne à la joie, ils s'élèvent spontanément la main au cœur, sans besoin d'autres mots.
Donc vous êtes foncièrement optimiste aujourd'hui, à l'automne 2019, Paolo Rumis. Pourtant, les populismes ne cessent de s'exacerber à l'intérieur de certains pays européens, y compris récemment dans votre propre pays. Vous le dénoncez d'ailleurs vigoureusement à l'intérieur de votre dernier ouvrage, Appia. Comment comprenez-vous cet engouement pour le populisme et cette montée de populisme dans différents pays éloignés géographiquement dans cette même unité que nous appelons l'Europe, ne risque-t-il pas de porter atteinte à cette hypothèse qui est aussi notre seule incarnation et seule possibilité de continuer à vivre en paix après la Seconde Guerre mondiale? Parce que c'est comme ça que vous réfléchissez depuis très longtemps. Vous dites, voilà, on vit dans une série de générations qui ignoront que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de conflit mondial. Donc l'Europe est notre seule perspective. Mais comment ne pas échouer face à la montée des populismes?
Je pense que le populisme, ce qui me préoccupe, c'est pas le populisme, mais le silence comme réaction au populisme. Je suis vraiment, vraiment enragé avec le silence d'une certaine gauche qui a eu peur de dire des choses fortes contre le populisme. Et je pense que le populisme a pu trouver de l'espace à cause d'un manque d'écoute. Les gens qui se sentent ignorés ont besoin d'être écoutés. Et moi, comme voyageur à pied, en vélo, etc., moi, je rencontre les gens et je me rends compte que il y a vraiment des régions entières que j'appelle les régions du silence, les territoires du silence, où personne n'écoute personne. Et alors, quand les populistes arrivent, ils te donnent l'impression de te donner un mégaphone. Mais c'est pas une réponse. Le mégaphone, c'est seulement quelque chose qui amplifie la rage. Et en même temps, je vois l'intérêt d'une classe politique qui a échoué, dans de grands concerns économiques qui ne font pas l'intérêt des prochaines générations, ont tout l'intérêt de détourner l'énergie politique contraire au pouvoir contre les autres ethnies. Donc la guerre ethnique, c'est une excuse pour ne pas affronter la guerre, une guerre politique vraie et forte.
Ben, merci beaucoup, Paolo Rumis. Merci pour votre écriture. Merci pour votre don de restitution de la beauté du monde. Merci pour tous vos livres. Et merci pour ce dernier qui est constitué à la fin, je le précise, parce que c'est le moment où on a peut-être envie de repartir ou de partir en vacances quand il n'y a pas trop de monde sur les routes. Et à la fin de votre livre, Appia, il y a tous les itinéraires avec toutes les possibilités de refaire sur vos propres traces sa propre voie Appia. Appia, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Artaud. Merci infiniment.
À vous. Thank you.
Merci à Tristan Gratalon qui était à la technique ce soir. Merci à Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. C'était Malik Djoudi avec « Dis-moi que tu penses ». Merci à Lilian Alaume qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka, l'ami Mishka Sayas, pour son « Very, very good trip ».